Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Oui, bah écoutez, ça fait un moment effectivement que le président Issoufou se plaint de la situation de Kidal. Ça revient en fait à se plaindre, pas forcément de la non-application de l'accord d'Alger, mais en fait de la substance aussi de l'accord d'Alger, puisque l'accord d'Alger donnait un statut particulier au MNLA et au groupe qui avait pris les armes. Sur le fond, l'accord d'Alger voulait restaurer la paix et aussi l'intégrité territoriale du Mali. Donc les intentions sont louables. Mais en fait, cet accord, vous le savez, a été négocié en position de faiblesse pour le Mali après les défaites militaires en fait 2012 qui ont fait que tout le nord du Mali a pris une sorte d'indépendance, a fait sécession, et puis la défaite contre les séparatistes en 2014. Juste après la visite du Premier ministre, M. Moussa, à Kidal. Et donc, c'est en 2015 que ça a été signé dans une position de faiblesse. Et donc, des concessions ont été faites aux groupes armés, en particulier aux groupes armés séparatistes qui sont à l'origine du problème. Puisque, à l'origine, ce sont les séparatistes qui ont déclenché l'insurrection du Nord. Et ensuite, ce sont les djihadistes qui, en quelque sorte, ont pris le relais. Alors, l'accord d'Alger prévoit que le désarmement est différé et prévoit que les groupes armés, pendant ce temps, continuent d'exister. Et en pratique, l'armée française elle-même, en 2013, lorsque Serval était intervenu, avait empêché en pratique l'armée malienne de prendre possession de Kidal. Et donc, le MNLA et ensuite le HCUA ont fait de Kidal leur fief. On sait que le HCUA a des accointances reconnues, ça a été dénoncé entre autres par le groupe d'experts de l'ONU, a des accointances avec les djihadistes. Donc cette zone de Kidal est une zone où on voit des manifestations séparatistes régulièrement, avec des drapeaux séparatistes. On a même vu parfois le drapeau malien se faire déchirer, brûler, etc. Et donc, c'est une zone de non-droit, et c'est une zone où les séparatistes et les djihadistes associés au sein du HCEA en particulier exercent tout pouvoir. Et donc, le président Issoufou se plaint de cette situation, et il estime que c'est lié à l'accord d'Alger. Alors, est-ce la non-application de l'accord d'Alger ou l'existence même de l'accord d'Alger qui a créé cette situation? Ça, c'est un sujet de débat. L'accord d'Alger prévoit le respect de l'intégrité territoriale. C'est marqué dans son préambule. Dans la pratique, on sait bien qu'à Kidal, les groupes armés des IFORAS font la loi. Et il y a une autorité intérimaire également qui est issue de ces groupes. Et donc, le président Issoufou a raison, certainement, c'est pas sans fondement, qu'il se plaint de cette situation de non-droit à Kidal qui sert, dit-il, de refuge à des terroristes et donc qui déborde finalement sur les États voisins, dont le Niger.
Donc on n'aurait pas dû, en 2015, signer l'accord d'Alger dans ces conditions, notamment en position de faiblesse, comme vous l'expliquiez.
Ben, on n'aurait pas dû être en position de faiblesse pour commencer. En fait, la racine du mal vient de là, n'est-ce pas? Lorsqu'un État est en position de faiblesse, il n'est pas en mesure d'imposer exactement ce qu'il souhaite. La négociation a été difficile, la pression internationale a été forte. Moi, je pense qu'il y a eu une certaine erreur, je l'ai souvent dit et expliqué, hein. Il y a eu une erreur diplomatique de la communauté internationale et aussi de la France, à vouloir considérer que ces groupes armés séparatistes étaient des partenaires politiques fiables. Il était important, certes, de les neutraliser. On va peut-être y arriver grâce à l'accord d'Alger, c'est pas exclu. Mais l'inconvénient, c'est la situation de durée de cette affaire, puisque l'accord d'Alger n'a pas été appliqué dans les 6 mois qui ont suivi, comme on pouvait l'espérer en 2015, n'est-ce pas ? Cette affaire traîne toujours. Aujourd'hui, le désarmement a commencé, mais enfin, ça fait quand même 4 ans après l'accord d'Alger, ou bien, 6 ans après l'intervention Serval. Donc, pendant des années, des groupes armés ont été maintenus en activité, en fait, grâce à l'accord d'Alger, grâce à la négociation qui se poursuivait sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Et cette situation était délétère, était toxique, parce que ça a suscité la création d'autres groupes armés. Le fait que des groupes armés Touareg subsistent dans la zone, n'est-ce pas, a entraîné le réarmement d'autres communautés, par exemple les Sonraï, mais aussi d'autres groupes. Il y a eu aussi des scissions entre ces différentes communautés. Il y a eu le fait que les Iforas, en ayant leur groupe armé, notamment le MNLA, qui pouvait se maintenir, ça a suscité la création, on le sait, du GACIA, c'est-à-dire du groupe armé créé par les Imrades, qui sont des Touaregs tributaires des Iforas. Donc les tensions qui existaient depuis assez longtemps entre les différents groupes Touaregs, notamment entre la noblesse et les tributaires, se sont militarisées par la formation de groupes armés. Et d'ailleurs, ce groupe GACIA est également signataire, on le sait, au titre de la plateforme dans l'accord d'Alger. Donc vous avez dans l'accord d'Alger, n'est-ce pas, vous le savez, trois composantes, les composantes groupe armé séparatiste, groupe armé loyaliste pro-Bamako et gouvernement malien. Et puis une quatrième composante qui est extérieure à l'accord d'Alger, qui sont la nébuleuse djihadiste. Alors, en fait, moi je dis, et je suis pas le seul à le dire, hein, beaucoup d'anthropologues ou de sociologues l'ont remarqué aussi, évidemment, l'existence reconnue de ces groupes armés, en particulier du MNLA, a eu des conséquences en cascade par la création de différents groupes armés. Donc une partie, pas la totalité, mais une partie des problèmes d'instabilité et aussi de tuerie qui existe malheureusement au Mali, y compris dans le centre, proviennent quand même au départ de la bénédiction en quelque sorte donnée à l'existence de ces groupes armés qui s'est prolongée.
Ok. Et donc en somme, vous confirmez les propos du président Issoufou qui estime que le statut de Kidal pose problème en ce moment.
Ben absolument, oui. Je veux dire, le président Issoufou dit des choses de bon sens. Il constate cette situation, tout le monde est obligé de le constater. Au niveau des solutions, c'est plus difficile. Moi, je ne critique pas aujourd'hui ce que font les autorités maliennes, parce qu'elles ont hérité de cet accord d'Alger qui a été en quelque sorte imposé à un État qui était en situation de faiblesse avec de fortes pressions internationales. Donc aujourd'hui, on peut essayer, je crois que c'est ça la bonne solution, de faire pour le mieux avec l'existant et d'appliquer intelligemment l'accord d'Alger. Hein. Des membres du gouvernement malien l'ont expliqué, cet accord est impopulaire, cet accord a des défauts, cet accord a été imposé en situation de faiblesse, mais il faut essayer d'en tirer le meilleur parti possible. C'est ce que, quand même, je crois, fait aussi le président et les autorités du Mali. Il faut l'interpréter intelligemment, il faut pas tout céder au groupe armé. Il faut résister à certaines pressions internationales lorsqu'elles ne prennent pas en compte complètement la situation du terrain et les contraintes des autorités. Donc il faut quand même obtenir que les groupes armés existants et signataires, ceux qui sont donc non-djihadistes, disparaissent du terrain. C'est en cours, hein, donc il y a quand même des aspects positifs aussi dans l'accord d'Alger. C'est aujourd'hui, on commence à les sentir, je l'espère, c'est d'absorber ces groupes armés, que ce soit les anciens séparatistes ou les loyalistes, et les intégrer dans l'armée et l'administration. Je crois que cet objectif est louable. Bien entendu, ça ne résout pas l'ensemble du problème, puisque l'essentiel, ce sont aujourd'hui les djihadistes. Mmh. Et moi, je dis que les groupes djihadistes ont été quand même stimulés par la perpétuation des groupes armés séparatistes. Okay. Et c'est ce que sous-entend aussi, je pense, le président Issoufou.